Tout de suite. Alors, c'est un sujet immense, évidemment, hein, c'est clair. J'ai choisi trois axes pour l'explorer, ce sujet. Le premier axe, ce sera l'espace et le temps. Le deuxième axe, ce sera la question de la valeur, et en particulier la valeur économique. Le troisième axe, ce sera la question des frontières. Alors, je commence tout de suite. Hein. L'espace et le temps, en parlant des réglementations. Alors maintenant, on n'en est plus à penser que les musiques afro-créoles, puisque c'est essentiellement de ça que je vais parler, que les musiques afro-créoles étaient interdites sur les habitations entre, disons, le début de la colonisation, le 17e et 1848. On sait que c'est faux, et c'est faux depuis le début, en fait. Ça a été bien dit, et ça a été dit par des gens avec beaucoup plus d'autorité que moi. Je pense à Marie-Céline Lafontaine, qui l'avait déjà dit dans les années 80. Non, c'est vraiment pas ça. Et on en a la preuve immédiate en regardant le Code noir. Voici le brouillon du Code noir. 1683, les colons de la Martinique et le gouverneur et l'intendant font un brouillon qu'ils vont soumettre à l'État français. Et dans ce brouillon, vous voyez bien qu'il est marqué que la musique est autorisée. Faites attention aux termes, parce que ce n'est pas négligeable, permettant néanmoins aux 10 esclaves de se réjouir chez leur maître avec des musettes, tambours ou violons. Donc voici le brouillon, et maintenant le Code noir, le fameux article 16. Hein. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper, etc., etc., sous prétexte, à peine, voilà. Alors, vous notez la formulation. Dans un premier cas, c'est permettons, dans l'autre cas, c'est défendons. Bon, comme si finalement les colons martiniquais, c'était la permission pour eux. Et puis l'État va légiférer dans un autre ordre. Et en fait, tout ce qui ressort de ces deux textes, c'est que ce sont les esclaves
d'habitation différentes, qui ne sont pas autorisés à s'assembler. Mais sur une habitation, aucun problème.
En fait, quand on regarde ça, faut faire très attention. Il y a deux choses auxquelles il faut faire très attention. Première chose, c'est que ces textes, en fait, ils disent simplement ce que le pouvoir voulait. C'était la société idéale qu'il imaginait. Alors, entre le texte qui est écrit et la réalité, il y a deux choses différentes. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que ça, ce sont des textes centraux. Ça vient du pouvoir central. Et c'est effectivement aussi répercuté sur place par les intendants. Or, il faut se souvenir que jusqu'à la fin, jusqu'en 1848, il règne sur les habitations une justice domestique. C'est-à-dire que ça passe pas du tout par les officiels. Hein. Le maître fait ce qu'il a à faire, et c'est généralement extrêmement violent, on le sait, et puis il n'en réfère absolument pas à l'étage supérieur, donc ce qui fait qu'on ne voit rien. Ça passe en dessous, sous le radar. Et donc il y a des tas de choses qui vont se passer dont on n'aura absolument aucune trace. Par exemple, là, il est prévu des peines pour ceux qui organisent des calendas. Mais on ne trouve rien dans les archives. On ne trouve absolument aucune condamnation, etc. Tout ça, ça s'est passé sur les habitations. Avec quelquefois des choses assez complexes à décrypter, comme ce qu'a montré Frédéric Réjean récemment en décryptant ce qui s'était passé à Hans Bertrand, un procès qui a été mis sur la place publique dans les années 1830. Je vous incite à lire ça parce que c'est assez étonnant de voir les rapports maître-esclave dans ce contexte. Alors ce qui va se passer par contre, et ça c'est intéressant, c'est que toutes les répétitions de cet article qui vont être faites pendant plus d'un siècle, hein, le Code noir prend effet, enfin il continue à avoir effet jusqu'en 1828, et en 1828 on le remplace, eh bien indique que ça n'est pas respecté. Voici, 1704. À quoi nous trouvons peu d'exactitude de la part des habitants et maîtres des esclaves, donc qui ne respectent pas. 1758, l'inexécution presque totale de ces dispositions, etc. 1795, Martinique, attendu qu'il est à notre connaissance que par une violation manifeste des ordonnances, etc. Alors, en fait, et c'est quelques exemples seulement, il y en a bien d'autres, en fait, ça n'est jamais appliqué. Donc, en fait, concrètement, ce texte du Code noir, il est absolument, comment dire, il sert pratiquement à rien. Hein. Ça se passe comme s'il n'existait pas. Les gens font leurs affaires, et à tous les niveaux. Et quand on regarde qui est-ce qui permet, ben, il y a le maître qui permet, mais il y a aussi quelquefois les officiers de police qui se posent pas de questions par rapport à un calendrier. Donc, en reprenant quand même toujours la même remarque que celle que j'ai faite tout à l'heure, ça, c'est dans le cas où il y a des calendas, parce qu'il y a aussi la violence qui s'exerce dans certaines habitations. Mais quelquefois, c'est totalement surréaliste. Voici 1726, à Saint-Domingue. Regardez en bas. Que de plus, d'autres habitants ou les mêmes vendent ou font vendre sur leurs habitations par personnes préposées ou par leurs esclaves mêmes de l'eau de vie de canne dont ils retirent du lucre et profit qui devient odieux. Non seulement le maître a laissé un calenda sur son habitation, mais il a même mis une buvette à l'entrée. Et il fait de l'argent avec. Vous voyez, c'est assez complexe finalement, hein. C'est pas si simple. On a l'impression qu'on a face à face. Mais là, en fait, pour analyser, on n'analyse plus maître-esclave ou maître-contre-esclave ou maître-esclave contre maître, on analyse l'ensemble d'une habitation. Et c'est cet ensemble d'habitations qui fonctionne avec une régulation qui est celle-ci. Hein. Donc voilà.